Vous écoutez On lit pour vous.
Une première historique pour la francophonie et pour les femmes. Un texte de Julie Caflé, paru le 13 juin 2025 dans Le Devoir. Fondée en 1848, avant même la Confédération canadienne, l'Université d'Ottawa a vu passer des générations de penseurs, de chercheurs et de leaders. Mais voilà qu'en 2025, pour la toute première fois, c'est une femme qui prendra les rênes de l'établissement à titre de rectrice et vice-chancelière, la réputée juriste Marie-Ève Sylvestre. Il aura fallu 177 années avant ce moment historique qui mérite d'être souligné haut et fort. C'est un plafond de verre qui se brise dans les amphithéâtres, les conseils facultaires et les cercles de gouvernance au pays. Mais attention! Une première ne fait pas une révolution et ne garantit pas que le chemin sera sans embûches. Marie-Ève Sylvestre est une candidate hors pair. Formée à l'Université de Montréal et à Harvard, elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans le milieu universitaire. Elle connaît la machine, les défis, les codes. Mais comme l'histoire nous le rappelle, cette expertise n'immunise pas les femmes contre les pièges du pouvoir. Le phénomène de la falaise de verre est bien réel. Les femmes sont souvent nommées à des postes de leadership en période de crise, quand les risques d'échec sont plus grands et les critiques plus sévères. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Canada, 60% des départs prématurés à la direction d'université concernent des femmes, alors qu'elles ne représentent que 30% des présidents. Au sein des U15, les plus grandes universités de recherche au Canada, seulement 13% sont dirigés par des femmes. La nomination de Mme Sylvestre fera grimper ce taux à 20%. Deux nominations à venir au sein du groupe U15, à l'Université de Toronto et à l'Université McMaster, porteront le pourcentage de présidente à 33%. Au Québec, la réalité est contrastée. Certes, certaines institutions se démarquent. McGill a été dirigée par deux femmes consécutives, Heather Monroe Blum, 2002-2013, et Suzanne Fortier, 2013-2022. Et Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval depuis 2017, incarne un leadership durable et rassembleur. En 2025, 20% des universités québécoises sont dirigées par des femmes, notamment à Laval, l'UQO, la TELUC et Polytechnique. Mais ailleurs, les mandats écourtés de certaines rectrices, comme à l'UQTR ou à Concordia, posent la question du soutien réel offert aux femmes dans ces rôles. À l'échelle mondiale, la tendance est similaire. Même parmi les 200 meilleures universités du monde, à peine une sur quatre est dirigée par une femme. Ce déséquilibre envoie un signal troublant aux jeunes femmes. Malgré le talent et les diplômes, les portes du pouvoir restent souvent entrouvertes, voire verrouillées. Dans leur livre « Nerve », les anciennes rectrices Martha Piper et Indira Samara Sekera rappellent qu'être la première ne suffit pas. Elles parlent des pressions, de la solitude, des attentes démesurées. Et elles ont raison, une nomination historique n'est pas une fin en soi, c'est un début. Le véritable travail commence maintenant. Il faut créer un environnement où les femmes leaders sont soutenues, écoutées et outillées pour réussir. Il faut que les conseils d'administration fassent plus que nommer. Ils doivent accompagner. Le soutien ne doit pas se limiter aux communiqués ou aux séances photo. Il doit se traduire en accompagnement stratégique, en mentorat, en résilience collective. L'Université d'Ottawa, avec son mandat unique d'établissement bilingue et son enracinement en milieu francophone minoritaire, joue un rôle crucial pour l'avenir de la francophonie canadienne. En nommant une femme francophone à sa tête, elle affirme haut et fort que les universités doivent être des lieux de renouveau, de courage et d'avenir. Ce n'est pas une question de représentation, c'est une question de vision. Le leadership du 21e siècle exige audace, intelligence collective et capacité de rassembler. Alors, oui, célébrons cette percée, mais ne nous arrêtons pas là. Transformons ce moment en mouvement. pour que Marie-Ève Sylvestre ne soit pas seulement la première. C'était une première historique pour la francophonie et pour les femmes. Un texte de Julie Caffley, paru le 13 juin 2025 dans Le Devoir.
Aider un collègue qui file un mauvais coton, un texte de France Dufresne, paru le 27 mai 2025 dans La Presse. Il arrive qu'un collègue traverse des moments difficiles sur le plan personnel et que l'on souhaite l'accompagner du mieux que l'on peut. Comment faire? Nous passons beaucoup de temps dans une semaine à côtoyer des collègues de travail. Il est donc normal de tisser des liens, parfois même des liens d'amitié. Mais qu'en est-il lorsque l'un d'entre eux traverse une période difficile? Peut-être remarquez-vous qu'en ce moment, un de vos collègues n'est plus lui-même et qu'il présente des signes de troubles de santé mentale tels qu'irritabilité, anxiété, isolement, présentéisme, désorganisation, oubli et difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. Les signes peuvent être plus sérieux encore si vous constatez qu'il est en train de s'épuiser, de déprimer ou de perdre sa joie de vivre. Face à cette situation, il est naturel de vouloir lui offrir votre soutien. Mais comment le faire de manière efficace et bienveillante? Offrez-lui votre écoute. Commencez par lui prodiguer les premiers soins en santé mentale en lui offrant un soutien initial. Il ne s'agit pas de résoudre ses problèmes, mais plutôt d'être là pour l'écouter, pour lui témoigner de l'empathie et pour le guider vers des ressources plus spécialisées, si nécessaire. Choisissez un moment et un lieu propice pour aborder le sujet. Optez pour un environnement privé où vous ne serez pas interrompu. Exprimez votre inquiétude de manière authentique et sans jugement. « Je m'inquiète pour toi. Je suis là pour t'écouter si tu veux parler. » Les gens ont tendance à masquer leur état. Il faut parfois de la patience pour les encourager à s'ouvrir. Montrez que vous vous souciez réellement d'eux et rappelez-leur qu'il est normal de traverser des périodes difficiles. Gardez-vous toutefois de faire part de vos expériences. Lorsqu'une personne se confie, il peut être difficile de simplement écouter sans interrompre, sans comparer avec votre propre vécu ou sans dire des banalités comme « ça va passer ». Concentrez-vous sur l'écoute active. Posez des questions ouvertes, démontrez de l'empathie et résumez ce que vous entendez pour valider votre compréhension. Bien entendu, si la personne est en situation de crise ou présente un risque de suicide, n'hésitez pas à appeler les services d'urgence au 911. Il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas un professionnel en santé mentale. Votre rôle est d'écouter et de faire preuve de compassion, pas de régler le problème. Proposez-lui des ressources d'aide. Après avoir écouté votre collègue, vous pouvez lui suggérer de contacter des ressources professionnelles comme le Programme d'aide aux employés et à leurs familles, PAEF, s'il en existe un dans votre organisation. Le PAEF est une ressource précieuse qui offre un soutien confidentiel et des services professionnels pour un grand nombre de problèmes personnels. Outre les ressources professionnelles, il existe aussi les lignes d'écoute, les groupes d'entraide en santé mentale ou en dépendance, ainsi que les centres de crise et de prévention du suicide. Vous pouvez également l'inviter à parler à son gestionnaire ou à un responsable des RH si cela semble indiqué dans les circonstances. Faites preuve de discrétion. Lorsqu'un collègue vous fait confiance, il est important de respecter sa vie privée. ne partageait pas ses confidences avec d'autres collègues ou son gestionnaire, à moins qu'une vie soit en jeu. Il faut éviter que cette personne soit stigmatisée ou l'objet de commérages, ce qui pourrait accroître sa détresse ou encore la pousser à démissionner. Vous êtes l'employeur d'une personne en détresse? Les employeurs ont également un rôle crucial à jouer dans le soutien de la santé mentale de leurs employés. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, les travailleurs canadiens seraient 3 fois moins enclins à révéler qu'ils souffrent d'un problème de santé mentale que d'une maladie physique, car ils craignent d'être jugés, d'être traités différemment ou de subir des conséquences négatives. Cette statistique souligne l'importance d'une culture organisationnelle qui favorise le mieux-être émotionnel pour que les employés se sentent à l'aise de parler de leurs problèmes autres que physiques. Il en va donc de votre responsabilité de créer et de maintenir un climat de travail où les gens se sentent bien et sont capables d'être vulnérables, sans peur de représailles. Concept de Psychological Safety, développé par le psychologue américain Carl Rogers, qui a particulièrement gagné en importance récemment depuis la création de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Les leaders doivent montrer leur engagement en parlant ouvertement de santé mentale et en faisant preuve de tolérance et de souplesse. Des activités de sensibilisation, notamment auprès des gestionnaires, peuvent aussi aider à créer un environnement où la santé mentale est prise au sérieux et où les employés se sentent accueillis. Lorsque c'est possible, l'employeur devrait offrir un accès à des ressources professionnelles, par exemple un PAEF, des services de télémédecine et un accès à une liste élargie de professionnels de santé mentale par l'entremise de son programme d'avantages sociaux. Prenez soin de bien communiquer ces ressources à tous les employés, afin qu'ils sachent vers qui ou quoi se tourner en cas de besoin. Accompagnez l'employé. Si vous êtes le gestionnaire de cet employé ou un membre des ressources humaines, prenez le temps de discuter en privé et parlez de faits observables. L'employé a droit à la confidentialité et vous ne pouvez pas le forcer à parler. S'il choisit de vous parler de sa situation, travaillez ensemble pour trouver des solutions. Demandez-lui ce qui pourrait l'aider et proposez des accommodements lorsque c'est possible. Il peut s'agir de réduire sa charge de travail, d'offrir un horaire plus flexible ou encore de l'aider à se prévaloir du programme d'invalidité de courte durée s'il y en a un. Il est important de montrer que vous prenez ces préoccupations au sérieux en faisant des suivis. Cette étape est souvent oubliée alors qu'elle est essentielle. Cet engagement montre que vous vous souciez réellement de son bien-être et que vous êtes là pour le soutenir à long terme. Au fil des rencontres, restez à l'écoute et adaptez-vous aux besoins de l'employé au fur et à mesure. La santé mentale est l'affaire de tous. Vous pouvez faire une différence significative dans la vie de votre collègue en le guidant vers des ressources qui l'aideront à retrouver la santé. Ensemble, collègues et employeurs, nous pouvons contribuer à un milieu de travail sain, plein d'empathie, où chacun agit à titre de filet de sécurité supplémentaire lorsque la vie nous met à l'épreuve. C'était « Aider un collègue qui file un mauvais coton », un texte de France Dufresne, paru le 27 mai 2025, dans la presse.
La presbyacousie, comprendre la perte auditive liée à l'âge. un texte du réseau des cliniques LOB paru le 15 mai 2025 dans Virage. Avec le vieillissement de la population, la surdité liée à l'âge, aussi appelée presbyacousie, touche un nombre croissant de personnes au Québec. Bien qu'elle se manifeste progressivement et à des rythmes différents d'une personne à l'autre, elle est observée plus fréquemment chez les gens de 60 ans et plus. En effet, selon Statistique Canada, cette perte d'audition touche plus de 75% de cette tranche d'âge. Ce pourcentage bondit à 94% chez les personnes de 70 ans et plus. Qu'est-ce que la presbyacousie? En termes simples, la presbyacousie est une perte de l'audition liée à l'âge, qui touche généralement les deux oreilles. Elle ne survient pas brusquement, mais s'installe progressivement, de manière presque imperceptible au début. Elle résulte de la dégénérescence des cellules de l'oreille interne. Plus précisément, à l'intérieur de la cochlée, l'organe principal de l'audition, les cellules ciliées se détériorent au fil du temps. Cela cause une baisse de l'audition graduelle, affectant d'abord les hautes fréquences, notamment les sons aigus, certains bruits du quotidien, comme le chant des oiseaux, et certaines voix, fréquemment féminines, peuvent devenir difficiles à entendre et à comprendre. De plus, la presbyacousie est également caractérisée par des difficultés d'écoute en présence de bruits ambiants. La santé auditive, votre priorité. En plus de consulter une professionnelle ou un professionnel de la santé auditive pour faire évaluer son audition et bénéficier d'un accompagnement adapté, une personne malentendante peut adopter certaines stratégies de communication pour mieux comprendre la parole. Réduire le bruit ambiant autant que possible, se placer face à son interlocutrice ou interlocuteur et rester dans la même pièce lors des échanges, demander aux personnes de parler à un rythme modéré, solliciter la répétition ou la reformulation de certaines phrases au besoin, dans une conversation de groupe, encourager les personnes à parler une à la fois. Si vous ou une personne de votre entourage avez des doutes sur la qualité de votre audition, prenez rendez-vous pour un examen auditif. C'était la presbyacousie, comprendre la perte auditive liée à l'âge. Un texte du réseau des cliniques LOB paru le 15 mai 2025 dans Virage.
L'indignation est-elle une question d'âge? Un texte de Jasmine Legendre paru le 23 mai 2025 dans Le Devoir. Le Devoir a réuni quatre personnes de générations différentes pour discuter de ce qui les indigne. L'indignation est-elle une question d'âge? Les raisons de s'indigner changent-elles selon qu'on est au début, au milieu ou à la fin de notre vie active? Il est facile de supposer que oui, tant les portraits qu'on se fait des différentes générations sont différents. Mais est-ce vraiment le cas? À l'invitation du Devoir, Hélène Dumais, boomer, 77 ans. Tariq M. Sirdi, génération X, 51 ans. Mathieu Gélina, millénarial, 33 ans. Et Jeanne Roberge, génération Z, 27 ans. Ont discuté de ce qui provoque leur indignation. Leurs échanges montrent que, si leurs perspectives sur les questions de l'heure sont forcément influencées par leur âge, leurs préoccupations fondamentales sont plus semblables qu'on aurait pu le croire. Regard sur leur génération. Mathieu Gélina lance la discussion en abordant les sentiments partagés qui animent ceux qui ont son âge. Pour lui, la génération des millénarios nage en pleine errance. On est un peu assis entre deux chaises. La plupart d'entre nous sont nés à l'aube du nouveau millénaire et ont vécu plusieurs changements technologiques. Il observe que beaucoup de gens de son entourage vivent des remises en question, des changements de carrière et des interrogations existentielles. Jeanne Roberge, pour sa part, estime que sa génération vit plutôt un sentiment de perte de repères. Pour changer de carrière, il faut d'abord en avoir une, répond-elle à Mathieu. Pour elle, il est difficile d'envisager un avenir en raison de la crise climatique, mais également de l'inflation et de la crise du logement. Savez-vous le nombre de personnes que je connais qui prennent des antidépresseurs, qui vivent de l'anxiété, de la dépression à cause de ce qui se passe, exprime-t-elle. La jeune femme de 27 ans, qui étudie les enjeux liés à l'identité de genre, déplore également la montée de la droite et les propos discriminatoires qui, selon elle, ne sont pas l'apanage des baby-boomers, mais sont bien présents au sein de sa propre génération. Hélène Dumais fait partie de ceux qui se sont levés pendant la Révolution tranquille et le mouvement souverainiste, une époque de tous les possibles, selon elle. Toute la démarche du Parti québécois, on l'a suivie dès le départ. On accompagnait René Lévesque et Jacques Parizeau. À ce moment-là, on pouvait être proche d'eux. À cette génération qui fut au front pour propulser le Québec dans la modernité, les plus jeunes reprochent souvent d'avoir oublié ces idéaux progressistes d'autrefois. À 77 ans, Hélène se désole aussi de voir s'effriter la cohésion sociale qu'elle a autrefois connue, mais remarque, comme Jeanne, que le conservatisme n'est pas nécessairement une question d'âge. Pour Tariq M'Sirdi, les X, souvent perçus comme une génération oubliée, font le pont entre les plus jeunes et les plus âgés. On est passé du monde analogique au numérique. Et nous n'avons pas à blâmer les générations plus jeunes parce qu'ils ont utilisé les technologies que nous avons inventées, souligne-t-il, en référence aux critiques adressées aux Z et aux Y concernant leur dépendance technologique. Ce n'est pas en retirant les cellulaires que nous allons évoluer, ajoute-t-il, se disant inquiet des effets de l'interdiction des téléphones dans les écoles à la prochaine rentrée. Une mesure qui, selon lui, risque plutôt d'accentuer la fracture entre enseignants et élèves. La politique du moindre mal. Crise du logement, problème d'accès aux ressources en santé, hausse du coût de la vie. Les sources d'indignation ne manquaient pas lors de la dernière campagne électorale fédérale. Si la guerre tarifaire du président américain a pris beaucoup de place, c'est plutôt le changement climatique qui inquiète le plus nos quatre participants. L'intrigue perpétuelle dans laquelle on vit en ce moment, c'est quelle génération, au singulier ou au pluriel, de décideurs va prendre le taureau par les cornes et s'attaquer à la question environnementale, lance Mathieu Gélina, qui ne croit pas que les élus envoyés à Ottawa changeront les choses. Pour Hélène Dumais, bien que l'économie ait été centrale dans la dernière élection, collectivement, il faut changer notre vision. L'économie est toujours conçue sous sa forme capitaliste. C'est un gros obstacle au changement. Il va falloir que ça change, qu'on modifie notre conception, notre consommation. Ça fait appel à tellement de changements dans nos habitudes que je ne suis pas sûr que c'est possible. Toute la question environnementale, j'ai l'impression qu'on avance en arrière et ça, ça me désespère, confie-t-elle. Jeanne Roberge pousse encore plus loin la réflexion. Pour elle, l'espoir est déjà perdu. On me dit qu'en 2030, il va faire trop chaud et qu'on sera arrivé au point de non-retour. J'aime bien que les autres aient espoir en moi et en ma génération, mais moi, je n'ai pas d'espoir pour le futur. Ces propos font réagir Tariq M'Sirdi, qui est père d'un garçon de 16 ans. C'est notre responsabilité à nous autres de leur léguer un bon héritage, surtout du côté de l'environnement. On a un contrat social. Une identité québécoise multiple. Issus de parcours et de milieux différents, les quatre personnes réunies pour cette conversation apportent chacune une perspective singulière. Né au Maroc, Tariq M'Sirdi est arrivé au Canada en 1990, avant les attentats du 11 septembre qui, selon lui, ont profondément transformé la perception qu'on a des immigrants au Québec. À ses yeux, le projet souverainiste qui a enflammé la jeunesse d'Hélène Dumais n'est pas suffisamment rassembleur. il faut chercher une façon d'exister comme société francophone en Amérique du Nord, rétablir nos relations avec nos voisins du Sud et rassembler toutes les factions du Québec pour que le projet soit viable. Autrement, c'est un échec. Hélène Dumais est d'accord sur ce dernier point. Moi, j'appelle ça des bonbons mélangés. Il y a 30-40 ans, la nation canadienne-française était très homogène. Elle se repliait sur elle-même pour se protéger, mais maintenant, on n'aura pas le choix d'ouvrir très grand les bras, exprime celle qui considère que le Québec est beaucoup plus riche en accueillant des immigrants. Elle est également d'avis qu'on a tendance, politiquement, à les instrumentaliser. Tariq Amesirdi croit également qu'on ne doit pas attribuer tous les maux de la société aux immigrants. La crise du logement, ce n'est pas seulement la faute de l'immigration. On doit préparer des conditions gagnantes pour bien les accueillir. Selon lui, ce n'est pas en rendant moins accessible l'accès à nos universités aux étudiants internationaux que nous allons faire face aux plus grandes puissances mondiales comme la Chine et les États-Unis. On a besoin de démographie, on a besoin de beaucoup de monde, avance-t-il. La question de la langue, régulièrement source de débats animés au Québec, n'a pas échappé à la discussion. Je trouve qu'au Québec, on a tendance souvent à parler comme si on était les seuls francophones dans ce pays, note Mathieu Gélina. J'ai déjà été souverainiste, je ne le suis plus maintenant, désolé. Je trouve qu'on oublie souvent nos compatriotes francophones dans le reste du pays. Jeanne Roberge, elle, y voit un malaise identitaire plus profond. On a un traumatisme comme société où il y a les francophones et, au-dessus, les anglophones. On est un peuple qui se victimise, qui doit toujours se défendre contre l'autre, parce que sinon, on va perdre, explique-t-elle en faisant référence à la crainte de perdre la langue française. Sans vouloir faire peser l'avenir uniquement sur les épaules de la jeunesse, Mathieu Gélina rappelle l'importance de transmettre des valeurs humaines dès le plus jeune âge. Il y a une grande richesse dans les rapports humains. Ça fait tellement défaut aujourd'hui. On n'a jamais été aussi connectés et, à la fois, ironiquement, si tristement déconnectés les uns des autres. Pour les participants, la polarisation actuelle n'est pas foncièrement une affaire de génération, mais plutôt le symptôme d'un manque de dialogue. C'était « L'indignation est-elle une question d'âge ?» un texte de Jasmine Legendre paru le 23 mai 2025 dans Le Devoir.